Livre sixième. Sainte Monique retrouve son fils à Milan. Assiduité d'Augustin aux prédications de Saint Ambroise. Son ami Alypius. Projet de vie en commun avec ses amis. Sa crainte de la mort et du jugement. 1. Sainte Monique suit son fils à Milan. Ô mon espérance dès ma jeunesse, où donc vous cachiez-vous à moi? Où vous étiez-vous retiré? N'est-ce pas vous qui m'aviez fait si différent des brutes de la terre et des oiseaux du ciel? Vous m'aviez donné la lumière qui leur manque, et je marchais dans la voie ténébreuse et glissante. Je vous cherchais hors de moi, et je ne trouvais pas le Dieu de mon cœur. J'avais roulé dans la mer profonde, et j'étais dans la défiance et le désespoir de trouver jamais la vérité. Et déjà j'avais auprès de moi ma mère. Elle était accourue, forte de sa piété, me suivant par mer et par terre, sûre de vous dans tous les dangers. Au milieu des hasards de la mer, elle encourageait les matelots mêmes qui encourageaient d'ordinaire les novices affronteurs de l'abîme et leur promettait l'heureux terme de la traversée parce que, dans une vision, vous lui en aviez fait la promesse. Elle me trouva dans le plus grand des périls le désespoir de rencontrer la vérité. Et cependant, quand je lui annonçais que je n'étais plus manichéen, sans être encore chrétien catholique, elle ne tressaillit pas de joie comme à une nouvelle imprévue. Son âme ne portait plus le deuil d'un fils perdu sans espoir, mais ses pleurs coulaient toujours pour vous demander sa résurrection. Sa pensée était le cercueil où elle me présentait à celui qui peut dire « Jeune âme, je te l'ordonne, lève-toi » afin que le fils de la veuve, reprenant la vie et la parole, fût rendu par vous à sa mère. Son cœur ne fut donc point troublé par la joie en apprenant qu'une si grande quantité de larmes n'avait pas enfin coulé. Sans être encore acquis à la vérité, j'étais du moins soustrait à l'erreur. Mais certaine que vous n'en resteriez pas à la moitié du don que vous aviez promis tout entier, elle me dit avec un grand calme et d'un cœur plein de confiance qu'elle était assurée en Jésus-Christ qu'avant de sortir de cette vie, elle me verrait catholique fidèle. Ainsi elle me parla. Mais en votre présence, ô source de miséricorde, elle redoublait de prières et de larmes afin qu'il vous plût d'accélérer votre secours et d'illuminer mes ténèbres. Plus fervente que jamais à l'Église et suspendue aux lèvres d'Ambroise, à la source d'eau vive qui court jusqu'à la vie éternelle, elle l'aimait comme un ange de Dieu. Elle savait que c'était lui qui, me réduisant aux perplexités du doute, avait décidé cette crise, dangereux mais infaillible passage de la maladie à la santé. 2. Elle se rend à la défense de Saint Ambroise. Ma mère ayant apporté au tombeau des martyrs, selon l'usage d'Afrique, du pain, du vin et des gâteaux de riz, le portier de l'église lui opposa la défense de l'évêque. Elle reçut cet ordre avec une pieuse soumission, et je l'admirais si prompte à condamner sa coutume plutôt qu'à discuter la défense. L'intempérance ne livrait aucun assaut à son esprit, et l'amour du vin ne l'excitait pas à la haine de la vérité, comme tant de personnes, hommes et femmes, pour qui les chansons de sobriété sont le verre d'eau qui donne des nausées à l'ivrogne. Lorsqu'elle apportait sa corbeille remplie des offrandes funèbres, elle en goûtait et distribuait le reste, ne se réservant que quelques gouttes de vin, autant que l'honneur des saintes mémoires en pouvait demander à son extrême sobriété. Si le même jour célébrait plus d'un pieux anniversaire, elle portait sur tous les monuments un petit flacon de vin, trempé et tiède, qu'elle partageait avec les siens en petites libations, car elle satisfaisait à sa piété et non à son plaisir. Sitôt qu'elle eut appris que le saint évêque, le grand prédicateur de votre parole, avait défendu cette pratique même aux plus sobres observateurs, pour refuser aux ivrognes toute occasion de se gorger d'intempérance dans ces nouveaux banquets funèbres, trop semblable à la superstition païenne, elle y renonça de grand cœur, et au lieu d'une corbeille garnie de terrestres offrandes, elle sut apporter au tombeau des martyrs une âme pleine des vœux les plus épurés, se réservant de donner aux pauvres selon son pouvoir. Il lui suffit dès lors de participer à la communion du corps du Seigneur, dont les membres, imitateurs de sa croix, ont reçu la couronne du martyr. Il me semble toutefois, Seigneur mon Dieu, et tel est le sentiment de mon cœur en votre présence, qu'il n'eût pas été facile d'obtenir de ma mère le retranchement de cette pratique, si la défense en eût été portée par un autre moins aimé d'elle qu'Ambroise, qu'elle chérissait comme un instrument de mon salut, et lui l'aimait pour sa vie exemplaire, son assiduité à l'église, sa ferveur spirituelle dans l'exercice des bonnes œuvres. Il ne pouvait se taire de ses louanges en me voyant, et me félicitait d'avoir une telle mère. Il ne savait pas quel fils elle avait en moi, qui doutait de toute vérité et ne croyait plus qu'on pût trouver le chemin de la vie. 3. Occupation de saint Ambroise. Mes gémissements et mes prières ne vous appelaient pas encore à mon secours. Mon esprit inquiet cherchait et discutait sans repos. Et j'estimais Ambroise lui-même un homme heureux suivant le siècle à le voir honoré des plus hautes puissances de la terre. Son célibat seul me semblait pénible. Mais tout ce qu'il nourrissait d'espérance, tout ce qu'il avait de luttes à soutenir contre les séductions de sa propre grandeur, tout ce qu'il trouvait de consolation dans l'adversité, de charme dans la voix secrète qui lui parlait au fond du cœur, tout ce qu'il goûtait de savoureuse joie en ruminant le pain de vie, je n'en avais nul pressentiment, nulle expérience, et lui ne se doutait pas de mes angoisses et de ce gouffre de péril où j'allais tomber. Il m'était impossible de l'entretenir de ce que je voulais, comme je le voulais. Une armée de gens nécessiteux me dérobait cette audience et cet entretien. Il était le serviteur de leurs infirmités. S'il lui laissait quelques instants, il réconfortait son corps par les aliments nécessaires et son esprit par la lecture. Quand il lisait, ses yeux couraient sur les pages dont son esprit perçait le sens. Sa voix et sa langue se reposaient. Souvent, en franchissant le seuil de sa porte, dont l'accès n'était jamais défendu, où l'on entrait sans être annoncé, je le trouvais lisant tout bas et jamais autrement. Je m'asseyais, et après être demeuré dans un long silence, qui eût osé troubler une attention si profonde, je me retirais, présumant qu'il lui serait importun d'être interrompu, dans ces rapides instants permis au délassement de son esprit, fatigué du tumulte de tant d'affaires. Peut-être évitait-il une lecture à haute voix, de peur d'être surpris par un auditeur attentif en quelque passage obscur ou difficile, qui le contraignit à dépenser en éclaircissement ou en dispute le temps destiné aux ouvrages dont il s'était proposé l'examen. Et puis la nécessité de ménager sa voix, qui se brisait aisément, pouvait être encore une juste raison de lecture muette. Enfin, quelle que fût l'intention de cette habitude, elle ne pouvait être que bonne en un tel homme. Il m'était donc impossible d'interroger à mon désir votre saint oracle qui résidait dans son cœur, sauf quelques demandes où il ne fallait qu'un mot de réponse. Cependant, mes vives sollicitudes épiaient un jour de loisir où elles pussent s'épancher en lui. Elles ne le trouvaient jamais. Aussi, je ne laissais jamais passer le jour du Seigneur sans l'entendre expliquer au peuple la parole de vérité, et je m'assurais de plus en plus que l'on pouvait démêler tous ces nœuds de subtiles calomnies que ces imposteurs ourdissaient contre les divines Écritures. Mais quand j'eus appris qu'un croyant l'homme fait à votre image, vos fils spirituels, à qui votre grâce a donné une seconde naissance au sein de l'unité catholique, ne vous croyez point pour cela limité aux formes du corps humain, quoique je ne puisse alors concevoir le plus léger, le plus vague soupçon d'une substance spirituelle, néanmoins j'eus honte dans ma joie d'avoir tant donné du rang, aboyé non pas contre la foi catholique, mais contre les seules chimères de mes pensées charnelles, d'autant plus téméraires et impies que je censurais en maître ce que je devais étudier en disciple. Ô très haut et très prochain, très caché et très présent, être sans partie plus ou moins grande, tout entier partout et tout entier nulle part, vous n'avez point de forme corporelle. Et pourtant vous avez fait l'homme à votre image, l'homme qui, de la tête aux pieds, est dans le lieu. 4. Assiduité d'Augustin au sermon de saint Ambroise. Ne sachant donc de quelle manière votre image pouvait résider dans l'homme, ne devais-je pas frapper à la porte et demander comment il fallait croire, loin de m'écrier dans l'insolence de mon cœur, « Voilà ce que vous croyez !» J'étais d'autant plus vivement rongé du désir intérieur de tenir la certitude que, jouet et dupe de vaines promesses, j'avais plus longtemps, à ma honte, débité comme certains, tant de peut-être, avec toute la puérilité de l'erreur et de la passion. J'en ai vu clairement depuis la fausseté. J'étais déjà certain de leur incertitude, lors même que j'élevais contre votre Église mes aveugles accusations. Et sans être sûr qu'elle enseignât la vérité, je savais bien qu'elle n'enseignait pas ce que ma témérité lui reprochait. Ainsi je me sentais confondre et changer, et je me réjouissais, ô mon Dieu, que votre Église unique, corps de votre Fils unique, où tout enfant a mis sur mes lèvres le nom du Christ, ne se nourrit pas de bagatelles puériles, et que nul article de sa pure doctrine ne vous fit cette violence, ô Créateur de toutes choses, de vous resserrer sous forme humaine dans un espace limité, si large et si vaste qu'il pût être. Je me réjouissais encore que l'ancienne loi et les prophètes ne me fussent plus proposés à lire du même œil qui m'y faisait remarquer tant d'absurdités, quand je reprochais à vos saints les sentiments que je leur prêtais. Et j'aimais à entendre Ambroise recommander souvent au peuple, dans ses sermons, cette règle suprême, la lettre tue et l'esprit vivifie. Et lorsqu'en soulevant le voile mystique, il découvrait l'esprit là où la lettre semblait enseigner une erreur, il ne disait rien qui me déplût, quoique je ne susse pas encore s'il disait la vérité. Je retenais mon cœur sur le penchant de l'adhésion, de peur du précipice, et cette suspension même m'étouffait. Je voulais être aussi sûr de ce qui échappait à ma vue que de 7 et 3 font 10. Je n'étais pas, il est vrai, assez insensé pour croire que je pusse ici me tromper. Mais je voulais avoir la même compréhension de toute vérité, soit corporelle et éloignée de mes sens, soit spirituelle, quoique ma pensée ne sût rien se représenter sans corps. Or, je devais croire pour guérir, pour que les yeux de mon esprit, dégagés de leur voile, puissent s'arrêter en quelque sorte sur votre vérité éternelle, sans révolution et sans éclipse. Mais trop souvent, celui qui a passé par le mauvais médecin n'ose plus se fier même au bon. Ainsi, mon âme souffrante, que la foi seule pouvait guérir, de peur d'être trompée par la foi, se refusait à sa guérison. Elle résistait à ce puissant remède préparé par vos mains et que vous prodiguez à l'univers avec souveraine efficace. 5. Nécessité de croire ce que l'on ne comprend pas encore. Toutefois, je préférais dès lors la doctrine catholique, jugeant qu'elle commande, avec plus de modestie et entière sincérité, de croire ce qui n'est point démontré, soit qu'on ait affaire à qui ne peut porter la démonstration, soit qu'il n'y ait point de démonstration possible, tandis que leurs téméraires promesses de science, à pas dérisoire à la crédulité, ne sont qu'un ramas de fables et d'absurdités qu'ils ne peuvent soutenir, et dont ensuite ils imposent la créance. Et votre main miséricordieuse et douce, Seigneur, prenant et façonnant mon cœur peu à peu, je remarquais quelle infinité de faits je croyais dont je n'avais été ni témoin ni contemporain, tant d'événements dans l'histoire des nations, tant de récits de lieux, de villes que je n'avais jamais vus, tout ce que nous apprennent des amis, des médecins et 1000 autres qu'il faut admettre sous peine de rompre toutes les relations de la vie. Une foi inébranlable ne m'assurait-elle pas des auteurs de ma naissance, et que pouvais-je en savoir si je ne croyais aux témoignages? Ainsi, vous m'avez persuadé que, loin de blâmer ceux qui ajoutent foi à vos écritures, dont vous avez si puissamment établi l'autorité chez presque tous les peuples du monde, les incrédules seuls sont répréhensibles, et ne doivent point être écoutés quand ils nous disent « D'où savez-vous si ces livres ont été communiqués au genre humain par l'esprit du vrai Dieu, qui est la vérité même ?» Et c'est précisément là ce qu'il me fallait croire, puisque dans ces luttes sophistiques de questions captieuses, dans ces conflits de philosophes dont j'avais lu les livres, rien n'avait pu déraciner en moi la croyance que vous êtes, tout en ignorant ce que vous êtes, ni me faire douter que la conduite des choses humaines appartint à votre providence. Ma foi, à cet égard, était, il est vrai, tantôt plus forte, tantôt plus faible. Mais toujours ai-je cru que vous êtes, et que vous prenez souci de nous, quoique je ne susse quelle idée il faut avoir de votre nature, ou quelle est la voie qui conduit, qui ramène à vous. Ainsi donc, impuissante à trouver la vérité par raison pure, notre faiblesse a besoin de l'appui des saints livres. Et je commençais dès lors à croire que vous n'auriez point investi cette écriture d'une autorité si haute et si universelle s'il ne vous avait plus d'être cru, d'être cherché par elle. Quant aux absurdités où je me choquais d'ordinaire, quelques explications plausibles données devant moi m'en faisait déjà rapporter l'inconnu étrange à la profondeur des mystères. Et son autorité m'apparaissait d'autant plus vénérable et plus digne de foi que, s'offrant à la main de tout lecteur, elle n'en conservait pas moins dans la profondeur du sens la majesté de ses secrets. Accessible à tous par la nudité de l'expression, par l'abaissement du langage, et toutefois exerçant les cœurs les plus méditatifs, recevant tous les hommes en son vaste sein, et n'en laissant pénétrer qu'un petit nombre jusqu'à vous, à travers quelques mailles rompues de son voile, nombre qui serait encore bien plus petit si, au fait d'autorité où elle est élevée, elle ne rassemblait le genre humain dans le giron de son humilité sainte. Ainsi je méditais, et vous veniez à moi. Je soupirais, et vous prêtiez l'oreille. Je flottais, et vous me gouverniez. J'allais par la voie large du siècle, et vous ne m'abandonniez pas. 6. Misère de l'ambition. J'aspirais aux honneurs, aux richesses, au mariage, et j'étais votre risée. Et je trouvais dans ces désirs 1000 épines douloureuses. Et vous m'étiez d'autant plus propice que vous me rendiez plus amer ce qui n'était pas vous. Voyez mon cœur, ô Seigneur, qui m'avez inspiré ces souvenirs et cette confession. Que désormais s'attache à vous mon âme, que vous avez dégagée des gluants appâts de la mort. Quelle était sa misère ! Et vous ne cessiez de piquer sa plaie vive, afin qu'au mépris de tout, elle se convertît à vous, qui êtes au-dessus de tout, sans qui rien ne serait, qu'elle se convertit et guérit. Quelle était la grandeur de mon mal, et quelle fut, pour me le faire sentir, l'habileté de votre traitement, alors que je me disposais à prononcer un panégyrique de l'empereur, où je devais débiter force mensonges qui eussent été accueillis par des applaudissements complices. Et mon cœur était haletant de soucis. J'étais possédé de la fièvre des pensées dévorantes, quand, passant par une rue de Milan, j'aperçus un pauvre, aviné je crois, et en joyeuse humeur. Je soupirai, et m'adressant à quelques amis qui se trouvaient avec moi, je déplorai mes laborieuses folies. Tous nos efforts, si pénibles, et tels que ceux dont j'étais alors consumé, traînant sous l'aiguillon des passions cette charge de misère, de plus en plus lourde à mesure qu'on la traîne, avait-il d'autre but que cette sécurité joyeuse, où ce mendiant nous avait précédé, où peut-être nous n'arriverions jamais. Quelques pièces d'argent mendiées lui avaient suffi pour acquérir ce que je poursuivais dans ces âpres défilés, par 1000 sentiers d'angoisse, la joie d'une félicité temporelle. Il n'avait sans doute pas une joie véritable, mais l'objet de mon ambitieuse ardeur était bien plus faux encore. Il était du moins sûr de sa joie, et j'étais soucieux. Il était libre, moi rongé d'inquiétude. Que si l'on m'eût demandé mon choix entre la joie ou la crainte, il n'eût pas été douteux. Et si de nouveau l'on eût offert à mon choix d'être tel que cet homme ou tel que j'étais alors, j'eusse préféré d'être moi avec mon fardeau de sollicitude et de crainte, mais par aveuglement et non par rectitude. Devais-je donc me préférer à lui pour être plus savant, si ma science ne me donnait pas plus de joie et si je n'en usais que pour plaire aux hommes, non pas afin de les instruire, mais uniquement de leur plaire? C'est pourquoi vous brisiez mes os avec la verge de votre discipline. Loin donc de mon âme ce qu'ils lui disent, il y a joie et joie. Ce mendiant trouvait la sienne dans l'ivresse, et tu cherchais la tienne dans la gloire. Et quelle gloire, Seigneur, celle qui n'est pas en vous! Mensonge de joie, mensonge de gloire. Seulement cette gloire était plus qu'habiteuse à mon esprit. La nuit allait cuver son ivresse, et moi j'avais dormi, je m'étais levé. J'allais dormir et me lever avec la mienne, combien de jours encore? Oui, il y a joie et joie. Celle des saintes espérances est infiniment distante de la vaine allégresse de ce malheureux. Mais alors même, grande était la distance de lui à moi. Plus heureux que moi, il ne se sentait point d'aise quand les soucis me déchiraient les entrailles. Et il avait acheté son vin en souhaitant 1000 prospérités au cœur charitable, tandis que, par le mensonge, je ne cherchais que la vaine gloire. Je tins alors à mes amis plus d'un discours semblable, et mes réflexions sur mon état étaient fréquentes. Et je le trouvais alarmant, et j'en souffrais, et cette affliction redoublait le malaise. Et si quelque prospérité semblait me sourire, je répugnais à avancer la main. Car voulais-je la saisir, elle était envolée. 7. Son ami Alypius. Tel était le sujet ordinaire de nos plaintes entre amis, et principalement de mes entretiens intimes avec Alypius et Nébridius. Alypius, né dans la même cité, d'une des premières familles municipales, était plus jeune que moi. Il avait suivi mes leçons à mon début dans notre ville natale, et puis à Carthage, et il m'aimait beaucoup parce que je lui paraissais savant et bon. Et moi je l'aimais à cause du grand caractère de vertu qu'il développait déjà dans un âge encore tendre. Cependant, le gouffre de l'immoralité et des spectacles frivoles, béant à Carthage, l'avait englouti dans le délire des jeux du cirque. Il y était misérablement plongé lorsque je professais en public l'art oratoire. Mais il n'assistait pas encore à mes cours à cause de certaines mésintelligences élevées entre son père et moi. J'appris avec douleur cette pernicieuse passion. J'allais perdre, peut-être avais-je déjà perdu, ma plus haute espérance. Et j'avais pour l'avertir ou le réprimer ni le droit d'une bienveillance amicale, ni l'autorité d'un maître. Je croyais qu'il partageait à mon égard les sentiments de son père. Mais il n'en était rien, car, loin de s'en inquiéter, il me saluait et venait même quelques instants à mon auditoire. Et néanmoins, il m'était sorti de l'esprit de l'entretenir pour le conjurer de ne pas sacrifier une si belle intelligence à l'aveugle entraînement de si misérables jeux. Mais vous, Seigneur, qui ne lâchez jamais les rênes dont vous gouvernez vos créatures, vous n'aviez pas oublié qu'il devait être, entre vos enfants, l'un des premiers ministres de vos mystères. Et pour que l'honneur de son redressement vous revînt tout entier, vous m'en fîtes l'instrument, mais l'instrument involontaire. Un jour que je tenais ma séance ordinaire, il vint, me salua, prit place entre mes disciples et se mit à m'écouter avec attention. Et par hasard, la leçon que j'avais entre les mains me parut demander, pour son explication, une comparaison empruntée au jeu du cirque qui dut jeter sur mes paroles plus d'agrément et de lumière avec un assaisonnement de raillerie piquante contre les esclaves d'une telle manie. Vous savez, mon Dieu, que je ne songeais nullement alors à enquérir à Lippius. Mais il saisit le trait pour lui, ne le croyant adressé qu'à lui seul. Un autre m'en eût voulu, lui s'en voulut à lui-même. Excellent jeune homme, et qui m'en aima encore de plus vive amitié. N'aviez-vous pas déjà dit depuis longtemps, reprends le sage, il t'aimera? Et néanmoins, ce ne fut pas moi qui le repris, mais vous, à qui, soit de gré, soit à notre insu, nous servons tous d'instruments selon l'ordre de votre sagesse et de votre justice. Ce fut vous qui fîtes de mon cœur et de ma langue des charbons ardents pour brûler et guérir le mal dont se mourait cette âme de précieuse espérance. Que celui-là taise vos louanges qui ne considère pas vos miséricordes. Elles parlent en votre odeur du fond de mes moelles. J'avais dit, et aussitôt Alipius s'élança hors de l'abîme où un aveugle plaisir l'avait précipité. Sa magnanime résolution secoua son âme et en fit tomber toutes les ordures du cirque, où il ne revint plus. Bientôt après, triomphant de la résistance de son père, il emporta la permission de me prendre pour maître. Redevenu mon disciple, il s'engagea avec moi dans les superstitions des manichéens, aimant en eux cet extérieur de continence qu'il croyait naturel et vrai. Mais cette continence était loin de leur cœur. Ce n'était qu'un piège tendu aux âmes généreuses qui, ne connaissant pas encore les réalités de la vertu, se laissent prendre à la superficie où glisse son ombre et sa trompeuse image. 8. Alipius entraîné au sanglant spectacle du cirque. Nourri par ses parents dans l'enchantement des voies du siècle, loin de les délaisser, il m'avait précédé à Rome pour y apprendre le droit, et là il fut pris pour les combats de gladiateurs d'une étrange passion, et par le plus étrange entraînement. Il avait pour ses spectacles autant d'aversion que d'horreur, quand un jour, quelques condisciples de ses amis, au sortir de table, le rencontrent, et malgré l'obstination de ses refus et de sa résistance, l'emmènent à l'amphithéâtre avec une violence amicale au moment de ses cruels et funestes jeux. En vain, il s'écriait, « Vous pouvez entraîner mon corps et le placer près de vous, mais pourrez-vous ouvrir à ces spectacles mon âme et mes yeux? J'y serai absent, et je triompherai et d'eux et de vous. » Il eut beau dire, ils l'emmenèrent avec eux, curieux peut-être d'éprouver s'il pourrait tenir sa promesse. Ils arrivent, prennent place où ils peuvent, tout respirait l'ardeur et la volupté du sang. Mais lui, fermant la porte de ses yeux, défend à son âme de descendre dans cette arène barbare. Heureux s'il eût encore condamné ses oreilles, car à un accident du combat, un grand cri s'étant élevé de toutes parts, il est violemment ému, cède à la curiosité, et se croyant peut-être assez en garde pour braver et vaincre même après avoir vu, il ouvre les yeux. Alors son âme est plus grièvement blessée que le malheureux même qu'il a cherché d'un ardent regard. Il tombe plus misérable que celui dont la chute a soulevé cette clameur. Entré par son oreille, ce cri a ouvert ses yeux pour livrer passage au coup qui renverse un cœur plus téméraire que fort, d'autant plus faible qu'il plaçait sa confiance en lui-même au lieu de vous. À peine a-t-il vu ce sang, il y boit du regard de la cruauté. Dès lors, il ne détourne plus l'œil. Il l'arrête avec complaisance. Il se désaltère à la coupe des furies, et sans le savoir, il fait ses délices de ses luttes féroces. Il savoure l'ivresse du carnage. Ce n'était plus ce même homme qui venait d'arriver, c'était l'un des habitués de cette foule barbare. C'était le véritable compagnon de ses condisciples. Que dirais-je encore? Il devint spectateur, applaudisseur, furieux enthousiaste. Il remporta de ce lieu une effrayante impatience d'y revenir. Ardent, autant et plus que ceux qui l'avaient entraîné, il entraînait les autres. Et c'est pourtant de si bas que votre main puissante et miséricordieuse l'a retiré. Et vous lui avez appris à ne point s'assurer en lui, mais en vous, bien longtemps après néanmoins. 9. Alypius soupçonné dans l'arsin. Ce souvenir restait dans sa mémoire comme un préservatif à l'avenir. Semblable avertissement lui avait déjà été donné lorsqu'il était mon disciple à Carthage. C'était vers le milieu du jour. Il se promenait au forum, pensant à une déclamation qu'il devait prononcer dans les exercices de l'école, quand surviennent les gardes du palais qui l'arrêtent. « Vous l'aviez permis, mon Dieu, sans doute afin qu'il apprît, devant être un jour si grand, combien il importe que l'homme, juge de l'homme, ne prononce pas sur le sort de son semblable avec une crédulité téméraire. » Il se promenait donc seul devant le tribunal, avec ses tablettes et son stylet, lorsqu'un jeune écolier, franc voleur, secrètement muni d'une hache, sans être aperçu de lui, s'approche des barreaux de plomb en saillie sur la devanture et se met à les couper. Au bruit de la hache, on s'écrie à l'intérieur et on envoie des gens pour saisir le coupable. Entendant leur voix, celui-ci prend la fuite et jette son instrument de peur d'être surpris armé. Alypius, qui ne l'avait pas vu entrer, le voit sortir et fuir rapidement. Il s'approche pour s'informer. Étonné de trouver une hache, il s'arrête à la considérer. On l'aperçoit, seul, tenant l'outil dont le bruit avait donné l'alarme. On l'arrête, on l'entraîne, on appelle tous les habitants du voisinage, on le montre en triomphe, comme un voleur pris en flagrant délit et qu'on va livrer au juge. Mais la leçon devait se borner là. Vous vîntes aussitôt, Seigneur, au secours de son innocence, dont vous étiez le seul témoin. Comme on le menait à la prison ou au supplice, il se trouva à la rencontre un architecte spécialement chargé de la conservation des monuments publics. Les gens qui le tiennent sont charmés qu'à leur passage viennent précisément s'offrir celui qui d'ordinaire les soupçonnait des larcins commis au forum. Il en allait enfin connaître les auteurs. Or cet homme avait plus d'une fois vu Alypius chez un sénateur qu'il allait souvent saluer. Il le reconnaît, et lui prenant la main, le tire à part, lui demande la cause de ce désordre, et apprend ce qui s'est passé. La foule s'émeut et murmure avec menace. L'architecte commande qu'on le suive. On passe devant la maison du jeune homme coupable. À la porte se trouvait un petit esclave, trop jeune pour être retenu dans sa révélation par la crainte de compromettre son maître, qu'il avait accompagné au forum. Alypius le voit et le désigne à l'architecte, qui, montrant la hache à l'enfant, lui demande à qui elle est. « À nous, » répond à l'instant celui-ci. On l'interroge de nouveau. Tout se découvre. Ainsi le crime retomba sur cette maison, à la confusion de la multitude qui déjà triomphait d'Alypius. Dispensateur futur de votre parole et juge de tant d'affaires en votre église, il sortit de ce danger avec plus d'instruction et d'expérience. 10. Intégrité d'Alypius, ardeur de Nébridius à la recherche de la vérité. Je l'avais rencontré à Rome, où il s'unit à moi d'amitié si étroite qu'il me suivit à Milan pour ne point se séparer de moi, et aussi pour utiliser sa science du droit, suivant le désir de ses parents plutôt que le sien. Éprouvé déjà par 3 emplois, où son désintéressement n'avait pas moins étonné les autres qu'il n'était surpris lui-même de la préférence qu'on pouvait accorder à l'or sur la probité, une dernière tentative contre sa fermeté avait mis en œuvre tous les ressorts de la séduction et de la terreur. Il remplissait à Rome les fonctions d'assesseur auprès du comte des revenus d'Italie, quand un sénateur, puissant par ses bienfaits et son crédit, accoutumé à ne pas trouver d'obstacles, voulut se permettre je ne sais quoi de contraire à la loi. Alipius s'y oppose. On lui promet une récompense qu'il dédaigne. On essaye de menaces qu'il foule aux pieds. Tous admirent cette constance qui ne pliait pas devant un homme bien connu pour avoir 1000 moyens d'être utile ou de nuire, cette fermeté d'âme également indifférente au désir de son amitié et à la crainte de sa haine. Le magistrat lui-même, dont Alipius était le conseiller, quoique opposé à cette injuste prétention, n'osait cependant refuser hautement, mais, s'excusant sur l'homme juste, il alléguait sa résistance. Et en effet, s'il fléchissait, Alipius était décidé à résigner ses fonctions. Son amour pour les lettres seul faillit le séduire. Il eût pu, avec le gain du prétoire, se procurer les manuscrits, mais il consulta la justice et changea sa résolution, embrassant l'équité qui défend, de préférence à l'occasion qui permet. Cela n'est rien, sans doute, mais qui est fidèle dans les petites choses, l'est dans les grandes. Et rien ne saurait anéantir cet oracle sorti de la bouche de votre vérité. Si vous n'avez pas été fidèle dispensateur d'un faux trésor, qui vous confiera le véritable? Si vous n'avez pas été fidèle dépositaire du bien d'autrui, qui vous rendra celui qui est à vous? Tel était l'homme si intimement lié avec moi, et comme moi chancelant, irrésolu sur le genre de vie à suivre. Et Nébridius aussi, qui avait abandonné son pays, voisin de Carthage, et Carthage même son séjour ordinaire, et le vaste domaine de son père, et sa maison, et sa mère qui ne songeaient pas à le suivre. Il avait tout quitté pour venir à Milan vivre avec moi dans la poursuite passionnée de la vérité et de la sagesse. Il soupirait comme moi, il flottait comme moi, ardent à la recherche de la vie bienheureuse, profond et pénétrant examinateur des plus difficiles problèmes. Voilà donc 3 bouches affamées, exhalant entre elles leur mutuelle indigence et attendant de vous leur nourriture autant marquée. Et dans l'amertume dont votre miséricorde abreuvait notre vie régulière, considérant le but de nos souffrances, nous ne trouvions plus que ténèbres. Nous nous détournions en gémissant et nous disions « Jusque à quand ?» Et tout en répétant, nous poursuivions toujours, parce qu'il ne nous apparaissait rien de certain que nous puissions saisir en lâchant le reste. 11. Vive perplexité d'Augustin. Et je ne pouvais, sans un profond étonnement, repasser dans ma mémoire tout ce long temps écoulé depuis la 19e année de mon âge, où je m'étais si vivement épris de la sagesse, résolu d'abandonner à sa rencontre les vaines espérances et les trompeuses chimères de mes passions. Et déjà j'accomplissais mes 30 ans, embourbé dans la même fange, avide de jouir des objets présents, périssables, et qui divisaient mon âme. « Je trouverai demain, disais-je. Demain la vérité paraîtra, et je la saisirai. Et puis Faustus va venir, il m'expliquera tout. Ô grand maître de l'Académie, on ne peut rien tenir de certain pour régler la vie. Mais non, cherchons mieux. Ne désespérons pas. Voici déjà que les apparentes absurdités de l'écriture ne sont plus des absurdités. Une interprétation différente satisfait la raison. Arrêtons-nous sur les degrés où, enfant, mes parents m'avaient déposé jusqu'à ce que se présente la vérité pure. Mais où? Mais quand la chercher? Ambroise n'a pas une heure à me donner. Je n'en ai pas une pour lire. Et puis, où trouver des livres? Quand et comment s'en procurer? À qui en emprunter? Réglons le temps, ménageons-nous des heures pour le salut de notre âme. Une grande espérance se lève. La foi catholique n'enseigne pas ce dont l'accusait la vanité de mon erreur. Ceux qui la connaissent condamnent comme un blasphème la croyance que Dieu soit borné aux limites d'un corps humain. Et j'hésite à frapper pour qu'on achève de m'ouvrir. La matinée est donnée à mes disciples. Que fais-je de reste du jour? Pourquoi cette négligence? Mais trouverai-je un moment pour rendre visite à des amis puissants dont le crédit m'est nécessaire, pour préparer ces leçons que je vends, pour donner quelques relâches à mon esprit fatigué de tant de soins? Périssent toutes ces vanités, périsse tout ce néant, employons-nous à la seule recherche de la vérité. Cette vie est misérable et l'heure de la mort incertaine. Si elle nous surprend, en quel état sortirons-nous d'ici? Où apprendrons-nous ce que nous y aurons négligé d'apprendre? Ou plutôt, ne nous faudra-t-il pas expier cette négligence? Et si la mort allait trancher tout souci avec ce nœud de chair? Et si tout finissait ainsi? Encore s'en faut-il enquérir. Mais non, blasphème qu'un tel doute. Ce n'est pas un rien, ce n'est pas un néant qui élève la foi chrétienne à cette hauteur d'autorité par tout l'univers. Le doigt de Dieu n'aurait pas opéré pour nous tant de merveilles si la mort du corps absorbait la vie de l'âme. Que tardons-nous? Que ne laissons-nous là l'espoir du siècle pour nous appliquer tout entier à chercher Dieu et la vie bienheureuse? Mais attends encore. N'est-il plus de charme dans ce monde? A-t-il perdu ses puissantes séductions? N'en détache pas ton cœur à la légère. Il serait honteux de revenir à lui après l'avoir quitté. Vois, à quoi tient-il que tu n'arrives à une charge honorable? Que pourrais-tu souhaiter après? N'ai-je pas en effet des amis puissants? Quel que soit mon empressement à limiter mes espérances, je puis toujours aspirer à une présidence de tribunal. Et je prendrai une femme dont la fortune sera suffisante à mon état, et là se borneront mes désirs. Combien d'hommes illustres et dignes de servir d'exemple ont vécu mariés et fidèles à la sagesse? Ainsi disais-je, et les vents contraires de mes perplexités jetaient mon cœur çà et là. Et le temps passait, et je tardais à me convertir à vous, Seigneur mon Dieu. Je différais de jour en jour de vivre en vous, et je ne différais pas un seul jour de mourir en moi-même. Aimant la vie bienheureuse, je la redoutais dans son séjour, et en la fuyant, je la cherchais. Je croyais que je serais trop malheureux d'être à jamais privé des embrassements d'une femme. Et le remède de votre miséricorde contre cette infirmité ne venait pas à ma pensée, faute d'en avoir fait l'épreuve. Car j'attribuais la continence aux propres forces de l'homme quand je sentais ma faiblesse. J'ignorais, insensé, qu'il est écrit « Nul n'est chaste si vous ne lui en donnez la force. » Et vous me l'eussiez donné si le gémissement intérieur de mon âme eût frappé à votre oreille, si ma foi vive eût jeté dans votre sein tous mes soucis. 12. Ses entretiens avec Alypius sur le mariage et le célibat. Alypius me détournait du mariage et me représentait sans cesse que ces liens ne nous permettraient plus de vivre assurés de nos loisirs, dans l'amour de la sagesse, comme nous le désirions depuis longtemps. Il était d'une chasteté d'autant plus admirable qu'il avait eu commerce avec les femmes dans sa première jeunesse, mais il s'en était détaché, avec remords et mépris, pour vivre dans une parfaite continence. Et moi, je lui opposais l'exemple d'homme marié qui était demeuré dans la pratique de la sagesse, le service de Dieu, la fidélité au devoir de l'amitié. Mais que j'étais loin d'une telle force d'âme, esclave de cette fièvre charnelle dont j'étais dévoré, je traînais ma chaîne dans une mortelle ivresse, et je tremblais qu'on ne vînt la rompre, et ma plaie vive, frémissante, sous l'anneau secoué, repoussait la parole d'un bon conseiller, la main d'un libérateur. Que dis-je? Le serpent, par ma bouche, parlait à Alypius. Ma langue formait les nœuds et semait dans sa voix les doux pièges où son pied innocent et libre allait s'embarrasser. Celui était un prodige de me voir, moi qui l'estimais tant, prise à l'appât de la volupté, jusqu'à lui avouer même, dans la conversation, qu'il me serait impossible de garder le célibat. Et pour me défendre contre son étonnement, je lui disais que ce plaisir qu'il avait ravi au passage et dont un vague souvenir lui rendait le mépris si facile, n'avait rien de comparable aux délices de cette liaison dans laquelle je vivais. Que si la sanction du mariage venait à légitimer de telles jouissances, Quel sujet aurait-il donc d'être surpris de mon impuissance à mépriser cet ordre de vie? Il finissait par la désirer lui-même, cédant moins aux sollicitations du plaisir qu'à celles de la curiosité. Il voulait savoir, disait-il, quel était enfin ce bonheur sans lequel ma vie, qui lui plaisait, ne me paraissait plus une vie, mais un supplice. Libre de mes fers, son esprit s'étonnait de mon esclavage, et de l'étonnement, il se laissait aller au désir d'en faire l'essai, pour tomber peut-être de cette expérience dans la servitude même qui l'étonnait, dès là qu'il voulait se fiancer à la mort, et que l'homme qui aime le péril y tombe. Car nous n'étions l'un et l'autre que faiblement touchés des devoirs qui donnent seuls quelque dignité au mariage, la continence et l'éducation des enfants. Pour moi, je n'en aimais que l'enivrante habitude d'assouvir cette insatiable concupiscence dont j'étais la proie, et lui allait trouver la captivité dans son étonnement de ma servitude. Voilà où nous en étions, jusqu'à ce que votre grandeur, ne délaissant pas votre bout, prit en pitié notre misère et nous vint en aide par de merveilleuses et secrètes voies. 13. Sa mère n'obtient de Dieu aucune révélation sur le mariage de son fils. Et l'on pressait activement l'affaire de mon mariage. J'avais fait une demande, j'étais accueilli. Ma mère s'y employait avec zèle, d'autant que le mariage devait me conduire à l'eau salutaire du baptême. Elle sentait avec joie que je m'en approchais chaque jour davantage, et ma profession de foi allait accomplir ses vœux et vos promesses. Mais lorsque, à ma prière, et selon l'instinct de son désir, elle vous suppliait, de l'accent le plus passionné du cœur, de lui révéler en songe quelque chose de cette future alliance, vous n'avez jamais voulu l'entendre. Elle voyait de vaines et fantastiques images rassemblées par la vive préoccupation de l'esprit. Elle me les racontait avec mépris. Ce n'était plus cette confiance qui lui attestait l'impression de votre doigt. Certains goûts ineffables lui donnaient, disait-elle, le discernement de vos révélations et des songes de son âme. On pressait néanmoins mon mariage. La jeune fille était demandée, mais il s'en fallait de 2 années qu'elle fût nubile, et comme elle me plaisait, on prit le parti d'attendre. 14. Projet de vie en commun avec ses amis. Nous étions plusieurs amis ensemble qui, dégoûtés des turbulentes inquiétudes de la vie humaine, objet habituel de nos réflexions et de nos entretiens, avions presque résolu de nous retirer de la foule pour vivre en paix. Notre plan était de mettre en commun ce que nous pourrions avoir, de faire une seule famille, un seul héritage. Notre sincère amitié faisant disparaître le tien et le mien. Le bien de chacun serait à tous, le bien de tous à chacun. Nous pouvions être 10 dans cette communauté, et plusieurs d'entre nous étaient fort riches, Romanianus en particulier, citoyen de notre municipe, qu'une tourmente d'affaires avait jeté à la cour de l'empereur, et mon intime ami dès l'enfance. Il était le plus ardent à presser ce dessein, et il nous le persuadait avec d'autant plus d'autorité qu'il avait la supériorité de la fortune. Nous avions décidé que 2 d'entre nous seraient chargés, comme magistrats annuels, de l'administration des affaires, les autres vivant en repos. Mais quand on vint à demander si les femmes y consentiraient, plusieurs étant déjà mariés, et nous aspirant à l'être, l'argile si bien façonnée de cette illusion nouvelle éclata entre nos mains et nous en rejetâmes les débris. Et nous voilà retombés dans nos soupirs, dans nos gémissements, dans les voies du siècle larges et battues, et notre cœur roulait le flot de ses pensées devant l'éternelle stabilité de votre conseil. Du haut de ce conseil, riant de nos résolutions, vous prépariez les vôtres, attendant le temps propre pour nous donner la nourriture et pour ouvrir la main qui allait combler nos âmes de bénédictions. 15. La femme qui l'entretenait étant retournée en Afrique, il en prend une autre. Cependant, mes péchés se multipliaient, et quand on vint arracher de mes côtés, comme un obstacle à mon mariage, la femme qui vivait avec moi, il fallut déchirer le cœur où elle avait racine, et la blessure saigna longtemps. Mais elle, à son retour en Afrique, vous fit vœu de renoncer au commerce de l'homme. Elle me laissait le fils naturel qu'elle m'avait donné. Et moi, malheureux, incapable d'imiter même une femme, impatient de cette attente de 2 années pour obtenir la main qui m'était promise, n'étant point amoureux du mariage, mais esclave de la volupté, je trouvais une autre femme comme pour soutenir et irriter la maladie de mon âme, en lui continuant cette honteuse escorte de plaisir jusqu'à l'avènement de l'épouse. Ainsi la blessure dont la première séparation m'avait navré ne guérissait pas, mais après de cuisantes douleurs, elle tournait en sanie, et le mal, plus languissant, n'en était que plus désespéré. 16. Sa crainte de la mort et du jugement. Louange à vous, gloire à vous, ô source des miséricordes. Je devenais de jour en jour plus déplorable, et vous plus prochain. Vous avanciez déjà la main qui allait me retirer et me laver de cette boue, et je ne m'en doutais pas. Et rien ne me rappelait du fond de l'abîme des voluptés charnelles que la crainte de la mort et de votre jugement futur, si profonde en mon cœur que tant de doctrines contraires n'avaient jamais pu l'en bannir. Et je discutais avec Alypius et Nébridius les raisons finales des biens et des maux, leur avouant que, dans mon esprit, Épicure eût obtenu la palme si j'avais pu cesser de croire à la survivance de l'âme après la mort et à la rémunération des œuvres qu'Épicure n'admit jamais. Si nous étions immortels, leur disais-je, vivant dans une perpétuelle volupté des sens, sans aucune crainte de la perdre, ne serions-nous pas heureux? Et que nous faudrait-il encore? Et je ne voyais pas que cette pensée même témoignait de ma misère et de la profondeur de mon naufrage. Aveugle, je n'apercevais pas la lumière de cette beauté chaste et pure qu'il faut embrasser sans passion, invisible au regard de la chair, visible seulement à l'œil intérieur. Et malheureux, je ne concevais pas de quelle source coulait en moi ce plaisir que la présence de mes amis me faisait trouver au récit de ces honteuses misères. Car au sein même des joies charnelles, je n'eusse pu vivre heureux, même selon l'homme sensuel d'alors, sans ces amis que j'aimais et dont je me sentais aimé sans intérêt. Ô voix tortueuse, malheur à l'âme téméraire qui, en se retirant de vous, espère trouver mieux que vous. Elle se tourne, elle se retourne en vain sur le dos, sur le flanc, sur le ventre. Tout lui est dur, et vous seul êtes son repos. Et vous voici, et vous nous délivrez de nos lamentables erreurs. Et vous nous mettez dans votre voie. Et vous nous consolez et dites « Courez, je vous soutiendrai, je vous conduirai au but, et là je vous soutiendrai encore ».